Chers frères et sœurs, je crois que d'abord nous pouvons rendre grâce de pouvoir cette année, contrairement à l'an dernier, nous rassembler en ce saint jour de Pâques pour célébrer le mystère central de notre foi, le mystère de la résurrection du Seigneur. Et vous voyez, chers frères et sœurs, dans un monde où l'on vit comme si Dieu n'existait pas, où l'on connaît dans nos pays de vieille chrétienté une éclipse de la foi, il faut bien le reconnaître, un effacement même de l'Église, en raison sans doute des scandales qui défigurent son visage et qui ternissent son message, mais aussi parce qu'elle est fragilisée de l'intérieur par tous ceux qui voudraient que l'Église se conformât à l'esprit du monde. L'Église qui connaît aussi, dans bien des pays de notre globe, des persécutions ouvertes. Nous pensons ce matin à tous les chrétiens qui sont persécutés dans le monde, dans les pays qui sont encore sous le joug du communisme ou d'un islam conquérant. Et pourtant, Dieu demeure étonnamment vivant et se réveille dans le cœur de tant d'hommes et de femmes, d'aujourd'hui comme d'hier. Je n'en veux pour preuve que ces 3639, je crois pour être précis, catéchumènes qui ont été baptisés lors de la vigile pascale ou en ce matin de Pâques en France. Dans notre diocèse, 25 adultes, jeunes adultes. Je pense aux 8 adultes que j'ai baptisés hier après-midi dans la paroisse Sainte-Famille de Pau, et qui tous témoignent d'une rencontre personnelle avec quelqu'un qui est vivant, Jésus-Christ, quand bien même cela échappe à toute logique humaine et est tellement inattendu dans leur vie, dans leur milieu, dans leur contexte. J'en veux pour preuve encore ce détenu, cet ancien détenu, qui a quitté la prison de Bayonne il y a un an et que j'ai rencontré par hasard avec l'aumônier laïque de la maison d'arrêt de Bayonne mercredi dernier, alors que j'allais célébrer, comme chaque année, au moment de Pâques, une messe à l'intérieur de la prison. Ce détenu m'avait écrit il y a un peu plus d'un an après une messe de Noël que j'avais célébrée, où il était présent, au sein de la prison. Il m'avait écrit pour me dire qu'il avait connu lors de cette Eucharistie une guérison intérieure. Et mercredi, il nous disait « Il fallait que je passe par cette maison d'arrêt. Dieu le voulait. C'est la chance de ma vie, car j'ai rencontré le Seigneur. » Et je pense encore avec émotion à cet Irakien. Je sais qu'il y a des Irakiens dans cette cathédrale aujourd'hui. C'était en 2014, juste après les événements où ils avaient été expulsés, vous vous souvenez, de Mossoul et de la plaine de Ninive, après une messe en rite syriaque catholique à laquelle j'avais concélébré vaille que vaille. Cet homme me raconte la tragédie qu'il avait connue avec sa famille, quittant à la hâte sa maison, expulsé, manu militari, à pied, avec sa famille, sans rien. Et tout à coup, son visage s'éclaire, et avec un grand sourire, il me dit « Ils m'ont tout pris, mais il y a une chose qu'ils ne m'ont pas prise, c'est la foi, parce que Jésus est sauveur. » Oui, frères et sœurs, Jésus est vivant, Jésus est sauveur. C'est cela qui nous rassemble aujourd'hui, nombreux malgré les mesures sanitaires, qui nous rassemble pour proclamer notre foi. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité, comme nous le disons à l'envi, tous ces jours du temps pascal. Et en même temps, chers frères et sœurs, ne vous attendez pas cette année, comme l'année dernière et comme toutes les années, en ce jour de Pâques, à des révélations extraordinaires, à des manifestations spectaculaires. Vous avez entendu comme moi l'Évangile qui est proclamé aujourd'hui, le même sans doute par un autre évangéliste qui a été raconté lors de la vigile pascale. La sobriété avec laquelle les évangélistes nous rapportent ce mystère de la résurrection de Jésus qui dépasse tellement l'entendement humain. Ces saintes femmes, dans leur naïveté, tellement blessées dans leur affection par l'enlèvement du Christ, sa mort tragique sur la croix et sa mise au tombeau qui, au matin de Pâques, le sabbat étant passé, veulent encore naïvement lui rendre un dernier hommage en embaumant son corps qui a été enlevé, car c'était la veille du sabbat, à la hâte et mis au tombeau. Elle se pose bien une question tellement cruciale. Qui nous roulera la pierre du tombeau ? Comment pourrait-elle accéder au corps du Christ qui a été déposé ? Les impasses de notre vie, chers frères et sœurs, personnelles, familiales, communautaires, lorsqu'une pierre obstrue l'entrée de notre cœur et que la vie ne semble plus possible tant les épreuves pèsent sur nos épaules. Et c'est stupéfaite qu'elles arrivent au tombeau et qu'elles voient que la pierre a été roulée malgré les gardes qui se tiennent en faction depuis la veille au soir. Lorsqu'elles entrent dans le tombeau, elles ne s'aperçoivent même pas que Jésus n'y est plus. Elles voient un jeune homme, dit saint Marc. Les autres évangélistes parlent des anges et elles ne sont pas étonnées de voir des anges qui leur disent « Mais il n'est pas ici. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Il est ressuscité et il vous précède en Galilée. » Ce matin, nous voyons Marie-Madeleine qui se détache de ce groupe de saintes femmes qui part éperdue vers Pierre et Jean qui sont retirés dans leur cachette. On a enlevé le Seigneur mon maître et nous ne savons pas où on l'a mis. Pas un instant, elle ne pense à la résurrection. Si les évangélistes et si les apôtres avaient voulu nous convaincre à l'aide d'une thèse préconçue, ils s'y seraient pris autrement, non ? Quelle crédibilité à ce simple et humble témoignage ! Pierre et Jean courent vers le tombeau pour voir ce que les femmes leur ont dit. Jean, qui court plus vite que Pierre, sans doute, comme disent les pères de l'Église, parce qu'il est plus proche par le cœur de son maître, mais aussi parce qu'il est plus jeune, tout simplement, voit les linges à leur place dans le tombeau, laisse Pierre entrer. Pierre est le premier, même s'il est reconnu par la première communauté chrétienne comme le renégat, ce que Jean n'est pas. Il a une primauté que Jésus lui a donnée et qui ne peut être remise en cause par les autres disciples, malgré sa défaillance. Pierre entre à son tour, il voit les linges affaissés à leur place. Il sort perplexe, nous dira saint Luc. Il ne comprend pas. Jean rentre à son tour, il voit ces linges affaissés à leur place, il vit ce signe du tombeau vide et il crut. Car il n'avait pas encore compris que d'après les Écritures, il fallait que Jésus ressuscitât d'entre les morts. Chers frères et sœurs, soyez bien attentifs à cette parole, car ça n'est pas l'évidence sensible ni l'argumentation rationnelle qui peuvent nous conduire à croire en la résurrection de Jésus, qui sera toujours un événement qui, tout en étant historique, advenu dans l'histoire à un instant T, nous échappera toujours. Car à cet instant T, le Christ est en effet sorti, non seulement du tombeau, mais de l'espace et du temps, ces catégories qui définissent notre condition terrestre d'existence pour entrer dans le mode d'exister de Dieu, avec ce corps et cette humanité qu'il a reçu de la Vierge Marie par l'action de l'Esprit-Saint. La résurrection restera toujours un mystère, objet de foi, Et la foi vient, comme nous dit saint Paul, de ce que l'on entend, fides ex auditu. Vous entendrez souvent et vous redirez souvent pendant ce temps pascal cette parole que l'on dira tout à l'heure sans doute en chantant le Regina Celi, Resurrexit, Sicut Dixit. Il est ressuscité comme il l'a dit. Seule la parole du Christ, qui explique toute l'Écriture, peut parvenir à susciter dans notre cœur aujourd'hui un acte de foi dans le mystère de la résurrection, dont le Seigneur nous donne tellement de signes dans la vie de nos contemporains. Je vous ai parlé de ces catéchumènes adultes qui attestent d'une rencontre inattendue avec Jésus vivant. Ceux que j'ai baptisés dans cette vigile pascale étaient 8, 2 viennent de l'islam, et l'on sait aujourd'hui par un rapport qui vient d'être publié dans la presse qu'en France même, il est difficile pour un musulman de devenir chrétien. Sa vie peut être en danger, et même en danger de mort. Oui, en France, aujourd'hui, chers frères et sœurs, et pourtant, cette rencontre avec le Christ est irrésistible. Et dans un esprit de paix, de sérénité, de pardon même, et de réconciliation, ces catéchumènes qui me disent dans leurs lettres, depuis que j'ai rencontré Jésus, et que je me prépare au baptême, je suis capable de pardonner. Signe que Jésus est vivant, frères et sœurs, signe que Jésus est ressuscité. C'est la grâce que nous demandons particulièrement aujourd'hui à la Vierge Marie. Sans doute, nous avons besoin du témoignage des apôtres qui, comme dit saint Pierre, ont été les témoins privilégiés, non pas de la résurrection, mais du ressuscité, qui a bien voulu, par miracle, leur apparaître, lui qui échappait définitivement aux lois physiques de l'espace et du temps. Ils l'ont vu et ils en témoignent, et cette parole nous suffit, car elle éclaire la parole de toute l'Écriture. Ne fallait-il pas que, d'après les saintes Écritures, le Christ ressuscitât d'entre les morts ? Il est ressuscité, comme il l'a dit. Laissons-nous rejoindre, chers frères et sœurs, nous qui avons la grâce du baptême depuis tant de temps, par cette parole qui a traversé les âges, qui a traversé la nuit et qui, dans le témoignage des martyrs, a même traversé la mort, comme le Christ qui a traversé la mort et qui a surgi vivant du tombeau. Oui, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen.